Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour avec le chômage. 7,5% de chômage au quatrième trimestre, nous dit l'INSEE. C'est donc le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, à ne pas confondre avec les entrées et sorties enregistrées par France Travail, l'ex-pôle emploi. C'est un chiffre stable, enfin une stabilité un peu en trompe-l'œil. Est-ce que le plein emploi 2027 reste accessible ? Ce sont ce genre de chiffres qui poussent l'exécutif à vouloir alimenter une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Du coup, je poserai cette question qu'on a posée 1000 fois, mais tant qu'on n'aura pas une réponse définitive, on la posera. Est-ce qu'un jour ou l'autre, il faut se demander si on change la façon de financer la protection sociale ? C'est l'un des éléments que le MEDEF met en avant dans ses discussions avec l'exécutif sur ce qui pourrait être une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On rouvrira ce baromètre qu'on a rapidement évoqué la semaine dernière sur l'attractivité de la France, réalisé par les conseillers du commerce extérieur. Puisque la présidente des conseillers est avec nous aujourd'hui, baromètre sur l'attractivité qui notait un recul de l'attractivité, mais avec une première. Ça n'est pas un élément économique et social traditionnel qui expliquait ce recul de l'attractivité. C'est la première fois, comme je le disais, qu'un tel baromètre ne s'adressait pas à Bruno Le Maire, mais à Gérald Darmanin. Puisque le thème qui ressortait vraiment en avant avec une très forte chute, pas la plus forte chute, enfin la plus forte chute, pas l'élément le plus négatif, mais celui qui reculait le plus, c'est la question de l'insécurité et de la sûreté des personnes. On fera un peu de ralentissement de la croissance avec les milliards qu'il faut trouver et de la semaine en 4 jours. Bonjour Sophie Sidos-Vicat.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, vous êtes présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. On le rappelle, 4300 conseillers du commerce extérieur, dont 2500 expatriés.
C'est un peu plus, oui. 4600 patrons et les trois quarts à l'étranger dans 152 pays.
Ce sont des gens qui, 152 pays, qui donnent de leur temps bénévolement pour travailler à l'amélioration de l'image de notre pays.
Ils sont nommés par le Premier ministre.
D'accord.
Tout à fait.
Bon. Et ben voilà, ils ont sorti un baromètre d'attractivité qui est un peu moins réjouissant que ce qu'on a l'habitude de lire, notamment Business France ou EY. Mais c'est surtout la raison principale du recul de l'attractivité qui avait retenu mon attention. Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Enseignant, chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord et vous êtes membre du Manifeste pour l'Industrie. Bonjour Guillaume Richard.
Bonjour.
Il est président du groupe de services à la personne WeCare, plus de 20 000 salariés. Vous embauchez ?
Ah, on continue à embaucher, on continue à avoir des difficultés pour embaucher.
Oui, alors effectivement, c'est l'un des espoirs du gouvernement, c'est qu'il y a des secteurs qui peinent encore à recruter. Alors, 7,5% de chômage, nous dit l'INSEE. Et avec ce chiffre, il est marqué stable, chiffre taux de chômage stable. Mais attention, stabilité, parce qu'en même temps que l'INSEE publie le taux de chômage du quatrième trimestre, il révise à la hausse de 0,1 point le taux de chômage du troisième trimestre. Donc il était à 7,4, il monte à 7,5. Du coup, le trimestre suivant, il est à 7,5. Ça donne une impression de stabilité, mais enfin, on a clairement aujourd'hui tous les éléments qui nous permettent d'imaginer qu'on vit une inversion de la courbe du chômage dans le mauvais sens. Est-ce que vous partagez mon avis, Dany Lang ? Inversion de la courbe du chômage dans le mauvais sens et perspective d'un plein emploi chiffré à 5% en 2027 qui s'éloigne.
Oui, bah écoutez, moi j'ai toujours dit que c'est pas en faisant uniquement une politique d'offre qu'on va y arriver. Alors il y a eu une politique de demande, notamment au moment du Covid, avec les fameux 100 milliards. Mais ça ne suffit pas pour ramener le plein emploi. Le plein emploi, d'ailleurs, il y a visiblement un désaccord entre nous. Pour moi, le plein emploi, c'est le plein emploi strict, c'est-à-dire ce serait une situation où le chômage se limiterait au chômage frictionnel, c'est-à-dire au temps qu'il faut entre les entreprises.
Le chômage incompressible. Mais vous le mettez à quel niveau, ce chômage ?
Moi, je le mets à peu près à 2%.
À 2%. Il n'y a quasiment aucun pays au plein emploi, alors.
Je regarde, oui, d'accord, mais enfin, les États-Unis en sont pas si loin que ça, avec leurs 3 et quelques.
Voilà, ils sont à 3 et quelques. Voilà.
Le jour où on aura un nombre de chômeurs qui correspond à peu près aux emplois vacants dans le pays, c'est-à-dire autour, on est à 350, 380 000 emplois vacants.
C'est toujours le même chiffre, d'ailleurs.
Ça avait augmenté un tout petit peu après le Covid. Finalement, maintenant, bon, c'est stable. Voilà, le jour où le nombre de chômeurs correspondra au nombre d'emplois vacants, je considérerais qu'on est au plein plein emploi. Et c'est une définition, c'est la définition donnée par plusieurs économistes.
Je suis d'accord que c'est pas 5 le plein emploi.
Non, c'est pas 5.
Je suis pas sûr que le débat soit de savoir.
D'ailleurs, au demeurant, que toutes les réformes qui ont été menées de l'allocation chômage, etc., partent de l'hypothèse qu'on est au plein emploi. Objectivement, c'est pas le cas. C'est pas comme si on a des chômeurs étaient volontaires et voulaient prendre du travail.
Bon, la réforme de l'assurance chômage part pas du principe qu'on est au plein emploi. Elle part du principe qu'on a atteint notre chômage structurel et que si l'on veut casser le chômage structurel qui est traditionnellement à 7, il faut bien faire quelque chose. Alors peut-être que les choix sont pas les bons.
Sauf que ça fait des années qu'on essaie d'estimer le chômage structurel. Ça fait depuis les années 60 et que les banques centrales, par exemple, ont abandonné cette estimation parce qu'elle est pas sérieuse. Statistiquement, quand on fait des estimations du soi-disant chômage naturel ou du chômage structurel, on trouve toujours des intervalles de confiance de l'ordre de 15%. Alors désolé, mais je tiens beaucoup aux statistiques. 15%, c'est pas sérieux. C'est de la bouffonnerie. C'est de la bouffonnerie. Donc
quand depuis plus de 20 ans, on tourne autour de 7 au mieux, voire, je crois que c'est en 2006 où on est tombé à 6,9, très légèrement.
Non mais, oui, d'accord.
Et là, c'est une bataille de statisticiens que nous avons, mais c'est pas la question de savoir si on inverse tout, là, est-ce que tout est en train de s'inverser.
Non mais, moi, de toute façon, j'ai pas le sentiment que le chômage ait tellement baissé que ça.
Alors, je suis pas d'accord
avec les catégories de Pôle emploi, on a vu un basculement de la catégorie A vers les BSC, c'est-à-dire des gens qui ont occupé de manière involontaire des emplois à temps partiel.
Oui, c'est du temps partiel.
Avoir un emploi à temps plein. Donc, ceux-là ne sont plus comptés dans les chiffres du BIT.
En 2017, on était à 9,8% de chômage.
Il y a eu une baisse qui est indéniable.
Je me suis battu avec des auditeurs qui me disaient ce que vous dites, c'est n'importe quoi, le chômage n'a jamais baissé. Je leur ai dit, si, le chômage a baissé. Non. Maintenant, je vous dis qu'effectivement, il y a une inversion de courbe.
Non, mais d'accord.
Bon, on va.
Enfin, Nicolas, moi j'ai été le premier à vous défendre à l'antenne en disant que ce que vous prenez c'est soit la catégorie A, soit le chiffre du BIT.
Mais moi je préfère le chiffre du BIT.
C'est des chiffres qui sont sérieux, ceci dit il faut les relativiser et il faudrait aussi regarder quelle est la qualité des emplois qui ont été créés, ce qui est un autre débat, mais moi je pense que le plein emploi de qualité est possible et ça passe par une autre politique, notamment la généralisation des territoires zéro chômeur.
Je sais que vous payez beaucoup à ça, mais ça coûte très cher les
territoires. Ça coûte très cher, mais ça rapporte beaucoup aussi. Ouais. Parce que le chômage, c'est la première cause de divorce. Les divorces, ça coûte cher. C'est la première cause de suicide. Le suicide, ça coûte cher. C'est la première cause de dépression. La dépression, ça coûte cher à la Sécu. Donc, il faut aussi regarder combien ça rapporte.
Il ne faut pas être trop pessimiste.
On a Sophie Sidosvi, Catalyse.
Un taux de chômage qui est quand même très stable. Hein. 0,1%, c'est quand même pas, c'est pas énorme.
Non, c'est pas le gadin, voilà. Là, au quatrième trimestre. Non. C'est pas le gadin.
C'est bien amélioré depuis les dernières années.
Mais vous avez le sentiment que tout s'inverse dans le mauvais sens. Moi, j'ai tous les éléments pour vous argumenter que ça s'inverse.
Le problème, c'est
je vois pas en fait d'indicateur dans le vert aujourd'hui.
C'est toujours la même chose. C'est le temps. On a besoin du temps long dans l'entreprise. Et là, on a toujours du temps court. On a du mal à se projeter. Si on savait combien on allait payer l'énergie dans 3 ans, je vous assure que le taux de chômage il diminuerait beaucoup. Comme on ne sait pas, il y a une certaine incertitude. Mais aujourd'hui, il faut pas s'inquiéter. On a un taux de chômage à 7,5, c'est pas inquiétant.
Alors, juste demain, je suis d'accord avec vous que l'incertitude radicale pèse sur les entreprises.
Non, mais ça, c'est certain.
Et l'incertitude, c'est toujours un facteur négatif. Ça, c'est certain quand elle est radicale. C'est-à-dire, vous pouvez pas mettre de probabilité là-dessus. Et ça, c'est lié à l'absence de politique industrielle en matière énergétique. On en a déjà parlé. C'est l'un de mes dadas. Il faudrait changer radicalement de politique industrielle, ce qui permettrait aux entreprises de se projeter et d'avoir de la visibilité.
Politique industrielle énergétique, vous dites.
Oui,
juste un chiffre, je donne la parole à Guillaume Richard. Il y a quand même un effet fin du quoi qu'il en coûte. En 4 années, si vous voulez, le nombre de créations d'emplois, ça a fait plus 6% et l'activité a fait plus 2. Donc il y a un moment où c'est peut-être aussi un triste retour à la normale. Guillaume Richard.
On arrive sur un des facteurs d'explication majeurs. C'est que actuellement, les entreprises doivent rembourser le PGE.
On vous a donné 3 ans de plus, hein.
Oui, d'accord. Mais 3 ans de plus pour ceux qui font la demande et qui, derrière, voient une dégradation de leur note avec la Banque de France. Donc, en fait, en réalité, c'est vraiment ceux qui sont déjà dans une situation peu florissante et qui sont en grande difficulté. Et le PGE, rappelons-nous, parce qu'on a dit l'État a financé le Covid, etc. Et donc, il y a eu plein d'argent qui a été déversé dans les entreprises. Enfin, le PGE, le premier, le P de PGE, c'est prêt. Et un prêt, ça se rembourse. Et là, actuellement, les entreprises sont en train de rembourser.
C'est une garantie publique. C'est pas de l'argent déboursé.
Non, c'est exactement ça. Et donc, par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien, le mien, nous, ça nous a coûté 40 millions d'euros. Donc, quand vous avez 40 millions d'euros à rembourser et que votre entreprise, elle fait globalement une dizaine de millions d'euros de BE chaque année, d'excédent brut d'exploitation, et donc le cash qui est disponible, bah, c'est même pas la moitié de ça, et bien, quasiment toute notre capacité d'investissement, hors emprunt nouveau, est absorbée par le remboursement du PGE. Et donc, très clairement, ça pèse sur les entreprises, et mon entreprise est en très bonne santé. Et malgré ça, moi, j'ai pas la capacité d'investissement que je pouvais avoir auparavant. Donc, effectivement, cette contrainte pèse aujourd'hui sur de nombreuses entreprises qui consacrent leurs recettes non pas à continuer à investir, à se développer, mais à rembourser ce PGE prêt garanti par l'État.
Donc c'était un cadeau empoisonné, les PGE.
Oui, mais Nicolas, au demeurant, vous vous souvenez...
Moi, on dira un mot de la construction, Sophie.
J'ai toujours dit dans ce plateau qu'il fallait pas faire des prêts garantis par l'État, qu'il fallait directement aider, et puis après, tant pis. Parce que le résultat, aujourd'hui, c'est celui-là. Et en plus, on a une flexion de la politique budgétaire vers plus de ce qu'on appelle de la rigueur, mais en fait, qui est de l'austérité. Alors, c'est pas de l'austérité massive, mais enfin, quand même, on a un retour de l'austérité en même temps.
Vous voyez où de l'austérité, Dany Lang?
Les 10 milliards à trouver l'année dernière, les 10 milliards dont on nous parle cette année, etc., etc. Tout ça, les 100 milliards du plan de relance, c'est fini. Donc, c'est un retour à la normale. Ouais. Et on a un effet de ciseau avec les effets négatifs du PGE. Or, souvenez-vous, moi, j'ai toujours dit que le PGE, ça va être des tribunaux de commerce pleins à la fin. Il fallait, au vu de la situation exceptionnelle, aider les entreprises un bon coup et on s'arrête là. C'était exceptionnel, mais il fallait les aider et non pas mettre en place des prêts qui aujourd'hui pèsent sur l'activité.
Sophie, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de politique industrielle en France.
J'ai pas dit ça.
Si, vous avez dit qu'il n'y a pas de politique industrielle.
J'ai dit que la politique industrielle est insuffisante, oui. Alors, mais en tout cas, la politique budgétaire... Là, je parlais essentiellement de politique budgétaire.
Il y a une vraie politique industrielle avec le plan France 2030. Il y a 54 milliards qui vont être investis dans les entreprises. On en a investi déjà la moitié, 50%. Et on voit que des entreprises, que des usines se créent, qu'elles ouvrent. Alors, en effet, c'est avec du temps long. Les batteries, quand est-ce qu'on les aura vraiment? C'est pas aujourd'hui, mais il faudra compter 5 ans au moins avant de les avoir réellement sur le terrain. C'est ce temps long qui nous manque. On aimerait tout raccourcir et aller beaucoup plus vite. Mais il y a une vraie politique de développement. Aujourd'hui, du reste, l'État, quand l'État vous prête sur un projet, à vous aussi d'investir après, ce n'est pas de l'argent gratuit qu'elle vous prête. Elle vous prête, mais vous devez financer les trois tiers de ce qu'elle va vous prêter. Les deux tiers de ce qu'elle va vous prêter. Donc, on a une vraie politique de reconstruction de la France. À nous de s'en saisir, d'aller plus vite là-dessus et de reconstruire plus vite.
Madame, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de politique industrielle. J'ai dit qu'il n'y a pas de politique industrielle énergétique.
Énergétique, alors, dans le sens où il faudrait aller beaucoup plus vite.
Sur la politique industrielle, je trouve que les initiatives sont intéressantes. Le rôle de la BPI est formidable, mais ça ne suffit pas. Un jour, il va falloir avoir le courage d'amener au niveau européen la question de la politique de la concurrence, qui a été historiquement notre première politique, qui a dû être mise en place à partir du moment où on met en place des marchés libres, mais qu'aujourd'hui, nous évite de pouvoir mettre en place une vraie politique industrielle. On est obligé de prendre des biais.
Tout à fait d'accord.
Vous voulez dire que la doctrine de la concurrence en Europe est allée trop loin et qu'on se la prend comme un boomerang et qu'on en est victime
aujourd'hui. Exactement, parce que les États-Unis se sont jamais gênés. Économistes américains nous disent il faut ouvrir, il faut de la concurrence, et il faut le libre marché, etc. Mais la politique américaine, ça n'a jamais été ça.
La politique chinoise non plus. Il nous faut être réaliste.
Sophie Silos-Vicat. Parce que là, regardez, vous avez vu qu'il y a les fabricants de panneaux solaires en Europe qui disent à Bruxelles, protégez-nous contre la concurrence chinoise.
Les agriculteurs
n'ont cessé de dire, protégez-nous contre des pays qui ont la possibilité de produire avec du zéro norme environnementale.
Exactement.
Bien sûr. Un économiste, je vous écoute, Sophie, parce qu'un économiste vous dira, mais en fait, il y a des relents protectionnistes dans vos positions qui sont.
Non, il y a des relents de concurrence libre, de concurrence égale. Parce qu'en fait, pour qui la concurrence ? Il faut que les acteurs jouent avec les mêmes règles du jeu. Quand vous n'avez pas les mêmes règles du jeu, vous n'êtes pas en concurrence égale.
Pourquoi est-ce que vous allez acheter des panneaux photovoltaïques français qui seront 20% plus chers que les panneaux chinois ?
Peut-être parce qu'ils durent plus longtemps.
C'est même pas certain, d'ailleurs.
Peut-être parce qu'ils sont meilleurs.
Allez-y, Sophie, et puis Guillaume. Il n'y a aucun problème.
Le same level play field pour jouer. On ne joue pas dans la même cour.
Mais c'est exact. On ne l'aura jamais. Regardez, depuis plus de 20 ans que la Chine est présente dans l'OMC, elle n'a jamais respecté les règles. On sait très bien. Donc le seul système, effectivement...
Les taxes.
C'est l'État.
C'est la compensation. Mais regarde, c'est la compensation. Et les quotas, Nicolas.
Voilà, attendez, Guillaume qui a un déficit de temps de parole. Nicolas, on est en train de prendre les sujets dans tous les sens, mais c'est pas grave. Hein.
Nicolas, regarde par exemple sur les courses hippiques. Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de courses hippiques?
Qu'est-ce que tu fais dans les courses hippiques pour essayer d'avoir une égalité de traitement et une concurrence qui puisse jouer entre les jockeys et les chevaux? Eh bien, tu mets des poids supplémentaires en fonction pour avoir un handicap et faire en sorte que ça s'équilibre. Pour créer de la concurrence. Parce que sinon, si tu as un jockey qui est hyper léger par rapport à un jockey qui est plus lourd, bah, tu n'as pas de concurrence. Tu ne peux pas avoir une concurrence libre qui s'exerce avec un vrai travail de jockey et une vraie compétition qui peut avoir lieu. Là, c'est exactement la même chose au niveau de l'économie. On a des jockeys hyper légers parce qu'ils n'ont aucune norme, aucune contrainte, aucun machin, etc. C'est notamment la Chine. Et on a des jockeys hyper lourds, alourdis par le poids des charges, par le poids des normes, etc. Ben à un moment, il faut qu'on puisse jouer à jeu égal. La concurrence, elle nécessite d'être à jeu égal. Et ben, dans l'hippisme, ils ont réussi à mettre en place des handicaps avec des poids pour compenser cet écart. Et pour créer une vraie compétition, une vraie concurrence. Et nous, on le fait pas. Et donc, on joue avec des jockeys qui sont ultra lourds contre des jockeys hyper légers. Ben, à un moment, on perd la course. C'est normal.
Oui. Et donc, ça veut dire que pour mettre des poids, ça va être des poids qui vont s'appeler MACF, ouais. Mécanisme d'ajustement aux frontières de l'Europe, bien sûr. Carbone. Oui. Et ça veut dire que ce poids.
C'est bien pour les. Non seulement c'est bien pour l'économie, mais c'est bien aussi pour l'écologie et pour la planète.
Mais alors, il y a un moment, il faut expliquer à ton consommateur qu'il va falloir qu'il le paye.
Oui, mais en même temps, Nicolas, si on ramène l'essentiel de l'industrie en France,
mais on le fait pas,
il y aura plus de salaires, il y aura plus d'activités.
Oui, oui, mais
il y aura plus de salaires, il y aura plus d'activités, on pourra augmenter les salaires. Et c'est aussi parce que les salariés français sont en concurrence avec les salariés internationaux qui sont payés beaucoup moins cher qu'on a ça. Donc je suis désolé, moi je suis économiste, je suis minoritaire dans la profession, mais j'ai toujours défendu un protectionnisme intelligent et raisonnable.
Oui, alors protectionnisme intelligent. Est-ce que vous défendez le libre-échange, Dany Lang? Parce que j'ai regardé, par exemple, les résultats du CETA avec le Canada. Les Français sont gagnants dans le CETA.
Non.
Dans la plupart des domaines, ils ont été gagnants.
Je ne suis pas d'accord parce qu'on est.
Les tonnages sont beaucoup plus importants venant de chez nous que les tonnages qui viennent par rapport aux quotas soumis à cet accord de libre-échange. Alors, je ne sais pas si le Mercosur produirait les mêmes effets, mais dans certains secteurs, probablement.
Je ne suis pas certain que le libre-échange bénéficie à l'économie française et aux ménages français, notamment aux ouvriers, mais aussi aux industries. Donc, très franchement, je suis pour un protectionnisme raisonnable et raisonné, d'autant plus qu'on a un problème écologique, comme le disait monsieur, et que si on veut demain arrêter de surconsommer, si on veut arrêter d'atteindre le maximum que la Terre autorise à la fin août, bah, il va falloir reproduire local, remettre en œuvre des circuits locaux.
Mais le consommateur n'est pas prêt.
Bah, le consommateur n'est pas prêt.
Comme le dit Sophie, c'est le panneau chinois qui va être acheté.
Mais parce que les gens sont trop mal payé si vous avez plus
c'est
de
la
moyens.
La voiture électrique chinoise.
Voilà. On va évoquer tiens le.
Oui, la voiture électrique chinoise est de moins bonne qualité. Les panneaux électriques chinois sont de moins bonne qualité.
La voiture électrique chinoise n'est pas de moins bonne qualité. Oh, je ne suis pas un expert de la voiture. J'ai regardé un petit peu les travaux qui ont été menés par des gens qui suivent ce secteur. Ils ont une avance technologique de dingue, des années d'avance sur les Européens. Ils font des voitures qui correspondent à tous les standards, que ce soit les standards de design ou de sécurité. Accuser les voitures chinoises de ne pas être sûres.
Qu'elles n'étaient pas sûres. Ouais. Je suis pas sûr qu'elles soient de la même qualité que les voitures européennes. Bon,
mais elles sont pas de la même qualité environnementale. Ouais, et voilà. Mais à part ça, en termes de qualité de produit, je suis complètement d'accord avec Nicolas. Bon, pour le coup, ils ont aujourd'hui une avance technologique qui est énorme. Et c'est normal. Ça fait des années qu'ils courent de façon allégée par rapport à nous.
Bien sûr. On dira un mot des salaires justement à propos de cette idée quand même qui court qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être payer la protection sociale autrement. Juste avant de marquer une pause, Sophie Silos-Vicat, vous disiez on a besoin de temps, mais une politique de réindustrialisation est engagée. Oh, j'ai déjà la musique de fin qui court. ça fait quoi, 7 ans quand même que c'est engagé ce grand virage vers le retour de l'industrie? Et objectivement, quand vous prenez les chiffres de poids dans la valeur ajoutée, de poids dans le PIB, de production manufacturière, le compte y est pas. On voit pas un mouvement, un effet waouh.
On voit pas l'effet waouh, mais il y a un effet. C'est comme une fleur qui éclot. Vous la regardez, vous la voyez pas éclore. C'est pareil. Moi, je vous donne un cas particulier sur une de mes usines. J'ai eu un financement de 15 millions de l'État sur mes 40 millions que j'ai avancé moi. Cette usine, elle va rentrer en production cette année. Et je peux vous dire que dans 3 ans, il y aura le retour sur investissement pour l'État de ce qu'ils m'auront prêté. Mais il faut du temps. Ça prend du temps.
Donc 7 ans, c'est pas assez.
Sept ans, c'est pas assez. Il faut, voilà, il faut. parce qu'il faut réduire les délais. En France, tout est long. Vous voulez mettre des panneaux solaires chez vous, vous allez en Chine, ça vous prend, ou vous allez en Inde, ça vous prend 3 semaines. En France, c'est 4 ans. Donc, 4 ans pour mettre des panneaux.
On vous a promis un choc de simplification. Voilà. On va voir ce qu'il y a dedans. On va arrêter tuer le produit avant qu'il n'existe.
Là, mais ça va être génial. Là, bon, on attend beaucoup.
On évoquera le baromètre sur l'attractivité de la France. Oui. Je voudrais quand même vous... À plusieurs reprises, on a dit qu'il faut augmenter les salaires. Est-ce qu'il va falloir à nouveau réformer l'assurance chômage, financer tout ça différemment? C'est quand même une vraie question de fond. Oui. On n'a jamais vraiment voulu l'ouvrir, cette question. Donc, on va le faire une fois de plus aujourd'hui. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Est-ce la bonne décision? Oublié quelque chose? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Sophie Sidos-Vicat, présidente des conseillers du commerce extérieur de la France et propriétaire du groupe Simontier Vicat, Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord et membre du Manifeste pour l'Industrie, Guillaume Richard, le président du groupe de services à la personne WeCare. Il y a pas mal de réactions. Il fallait expliquer en 2020 que c'est quoi un prêt pour les entrepreneurs. On n'a pas expliqué à l'époque les prêts?
Bien sûr, on a expliqué ce que c'était des prêts, qu'il allait falloir les rembourser, mais de toute façon, on n'avait pas le choix à l'époque non plus. On était obligé, si on ne voulait pas fermer nos entreprises, on était obligé de contracter ces prêts. On savait bien évidemment qu'il allait falloir les rembourser. Et là, on arrive au moment où on doit les rembourser. Et effectivement, ça grève nos possibilités d'investissement. C'est quelque chose qui est tout à fait normal.
Ah oui, non, mais je suis assez sensible à l'argument de cet auditeur qui s'appelle JP, qui me dit pas de concurrence par le nivellement par le bas, les poids lourds doivent se transformer pour être compétitifs, perdre du poids. C'est pas non plus complètement inaudible comme argument. Voilà, non, je sais pas, je vous dis ça. Et puis je vais voir la suite. Sophie Sidos-Vicat, encore un mot sur l'emploi, parce que s'il y a bien un secteur qui aujourd'hui est rattrapé par la patrouille, c'est la construction. Vous êtes dans le domaine du ciment, vous n'êtes pas très éloigné. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait débloquer ce secteur de la construction qui est à l'aube d'une panade sans précédent?
Oui, alors la mesure très facile, c'est de trouver des terrains pour construire.
Ah, le foncier.
Le foncier, on a plus de foncier en France, mais en fait, on a du foncier. On pourrait débloquer des terrains. Il y a des tas de friches industrielles sur lesquelles on pourrait construire. La loi ZAN, il faudrait la revoir.
Ah, le zéro artificialisation nette.
Des sols. Ça, c'est vraiment plus possible. Avec la loi ZAN, on ne construit plus rien. Donc, en effet, si on ne construit plus rien, on ne peut plus se développer, on ne peut plus faire d'usine, on peut plus... Et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui.
C'est la suite de la fin de l'écologie punitive à laquelle on a assisté avec la crise agricole. On est en train de lever des contraintes sans contraintes, sans contraintes, sans contraintes, parce qu'on se rend compte que la population et que le système n'est pas prêt.
On peut trouver des terrains, et si on a des terrains, là on peut se développer, là on peut construire. Mais il faut vraiment revoir ces dispositifs au cas par cas et nous trouver des solutions pour nous développer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le bâtiment, il est vraiment à l'arrêt. La construction neuve, elle est à l'arrêt. Les logements sociaux, on a besoin de 450 000 logements sociaux en France. On n'en produit que 250 000. Donc c'est la vraie catastrophe.
C'est peut-être la raison qui a poussé Gabriel Attal à considérer qu'on allait réviser la loi SRU.
Tout à fait.
Oui, mais alors attention, parce que réviser la loi SRU pour permettre à certaines communes d'échapper...
Au logement, non, l'idée c'est de permettre d'inclure dans le quota des logements dits sociaux aussi les logements intermédiaires qui ont évidemment des loyers beaucoup plus élevés et qui ne s'adressent pas à la même population.
Il y a déjà beaucoup de logements sociaux intermédiaires, il y a déjà un certain nombre de catégories et il y a des communes, comme la commune de Pantin, qui ne construisent plus que des logements en catégorie intermédiaire. Parce que les pauvres, c'est pas beau. Donc attention quand même à ça. Je suis d'accord pour qu'on soulève un certain nombre de normes, mais la contrepartie devrait être que les nouveaux logements construits soient beaucoup plus neutres énergétiquement, ce qui est tout à fait faisable.
Normalement, c'est une obligation, Daniel.
Moi, je suis
la RE 2020, normalement, vous oblige à avoir une empreinte carbone sous contrôle. Dans la construction neuve.
Non mais d'accord, mais en tout cas, moi je suis très inquiet par la crise du logement qui s'annonce et dont on parle depuis un moment. Je pense, j'en suis désolé, que ça passe peut-être par la levée de certaines normes, mais aussi et surtout par un plan de relance, donc par de la dépense publique pour permettre par exemple la construction de ces logements sociaux qui ne vont pas se faire tout seuls. Et quand le bâtiment ira mieux, peut-être le reste de l'économie suivra.
Oui. Ah ben, quand le bâtiment va, tout va.
C'est vrai, oui, ça, on est d'accord. Vous savez quand même qu'à l'origine, c'est une expression de la marine. Hein. Quand le bâtiment va, tout va. Le bâtiment, c'est le bateau qui va de l'avant. Ouais. Alors après, effectivement, l'expression
C'est tout simplement parce que le bâtiment a un fort effet multiplicateur. Vous mettez un euro dans le bâtiment,
je vois pas,
vous mettez
Danny
beaucoup d'euros dans le reste de l'économie.
La croissance va être révisée de 0,5 à la baisse. Il va falloir trouver 10 milliards. On va pas vous faire un plan de relance sur le logement.
Oui, donc très bien. Comme ça, on va baisser la dépense de 10 milliards. Et puis comme ça, encore après, on s'étonne qu'on n'a pas de croissance et que le chômage augmente. Il faut être cohérent.
Et là, c'est pas un plan de relance. Par ailleurs, là, c'est pas un plan de relance qui nécessite de l'argent. C'est un plan de relance qui nécessite des réformes administratives et des simplifications.
Là, j'ai entendu un plan de relance par l'argent public. Oui, alors, vous me parlez d'un plan de relance par une simplification drastique du système.
Moi, ce que je vous garantis, c'est que si on supprime la RE 2020, tout va
supprimer la RE 2020.
C'est la catastrophe, la RE 2020. On construit tout en bois, on se rend compte que le bois vient de l'autre bout de la planète. Ça, pour la transition écologique, c'est catastrophique. Alors que localement,
Guillaume Poitrinal, la prochaine fois.
Il ne faut pas se gêner avec Guillaume, on est très amis. Ouais. Si on prend des matériaux qui sont fabriqués sur place, moi, par exemple, je travaille avec du béton, du ciment. Je peux vous dire que on peut faire des ciments décarbonés. On peut être encore plus décarbonés, même des carbones négatifs que le bois. Et dans la RE 2020, on n'a pas le droit.
La RE 2020 interdit des ciments verts.
Oui.
Vous êtes plus experte que moi sur les détails.
Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut construire qu'en bois. Et là, c'est pas normal. Quand on a pondu cette loi, on ne savait pas qu'on allait créer d'autres, qu'on allait continuer à inventer d'autres choses. Nous, on a inventé un ciment carbone négatif. Il n'est pas dans la RE 2020. Donc, il faudrait revoir cette
loi. Le ZAN, la RE 2020, le DPE, les pesticides.
Oui, mais il ne faut pas non plus tout détricoter. Sur les pesticides, c'est un vrai problème. Mais le problème de fond, c'est les traités de libre-échange qui font que nos agriculteurs sont en concurrence avec les gens qui n'ont pas les mêmes normes environnementales.
Même au sein de l'Europe, Danny Lang, même au sein de l'Europe.
Oui, même au sein de l'Europe.
J'ai été très frappé d'apprendre qu'on importait des pommes qui étaient produites avec un pesticide interdit chez nous.
J'ai toujours dit que c'est stupide, environnemental.
Environnementalement,
d'avoir des camions sur les routes françaises qui viennent d'Espagne, qui vont en Belgique avec des tomates, et les mêmes camions qui vont dans l'autre sens avec les tomates, les mêmes tomates. C'est absurde. Il faut instaurer une taxe kilométrique et il faut avoir le courage de mettre en place des normes
kilométriques. Encore une taxe, il y en a marre des taxes.
Oui, non, pas celle-là. Je suis désolé.
Vous souvenez les inconnus, taxes.
Je suis désolé.
Si c'est pour la bonne concurrence, oui.
Oui, mais vous trouverez toujours un argument pour dire que la taxe est bonne ou mauvaise. Enfin, est bonne, mais
non, il y a des taxes qui sont bonnes et en particulier quand elles évitent la concurrence déloyale dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont bonnes et elles sont désirables.
C'est un sujet de fond, Guillaume Richard, et c'est l'objet actuellement d'une discussion un peu feutrée entre le MEDEF et le gouvernement. Se dessine probablement une nouvelle réforme de l'assurance chômage et le MEDEF dit maintenant il faut passer à l'acte, il faut modifier le financement de la protection sociale. Le travail ne peut plus, dans sa quasi-intégralité comme après-guerre, financer l'ensemble des dispositifs sociaux et des comptes sociaux. Ça ne passe plus, ça ne tient plus. Est-ce que c'est votre avis ?
Bien évidemment. En fait, on fait reposer l'intégralité de la protection sociale de l'ensemble des Français exclusivement sur le travail des salariés du privé.
Presque exclusivement.
Sur les salariés du privé, par ailleurs. Mmh. Il y a un moment, ça n'a pas de sens. Mmh. À un moment, il va falloir inventer aussi une solidarité intragénérationnelle et pas uniquement intergénérationnelle. Pourquoi est-ce que...
C'est qu'une solidarité intra ?
Eh bien, au sein d'une même génération. Pourquoi est-ce que ce sont que les actifs qui financent l'intégralité pour les retraités et la dépendance ? Pourquoi est-ce que la journée de solidarité ne s'applique qu'aux actifs qui fonctionnent et qui travaillent et qui doivent payer pour les gens qui sont en situation de dépendance ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas les retraités qui aujourd'hui sont en bonne santé, qui sont solidaires avec les gens de leur même génération, en disant ceux qui sont en meilleure santé physique et financière vont financer pour ceux qui sont en moins bonne santé physique et financière.
C'est SG.
Oui, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas la totalité de la réponse. Et aujourd'hui, c'est indispensable de créer cette solidarité intragénérationnelle à l'intérieur de la génération. Rappelons-nous quand même que 70% du patrimoine des Français est entre les mains des gens qui ont plus de 70 ans.
Oui,
et donc, il y a là où se trouve aujourd'hui le patrimoine, c'est sur les générations les plus anciennes et qui auraient les moyens de créer cette solidarité intragénérationnelle au sein de cette génération où certains vivent très bien, ou d'autres vivent très mal. Et donc, il faut impérativement cette solidarité. Moi, je ne suis pas du tout contre la solidarité. Au contraire, il faut organiser cette solidarité, mais au lieu de la faire entre les générations, faisons-la à l'intérieur d'une même génération qui a, en partie, très bien vécu sur cette période des 30 Glorieuses, et puis après, le plein emploi, etc., etc. Et donc, organisons au sein de cette génération la solidarité.
Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir des systèmes de protection sociale qui coûtent moins cher, d'où la décision probablement confirmée et détaillée rapidement du gouvernement de réformer à nouveau l'assurance chômage après la réforme des retraites. Dany Lang, on ne fait pas trop long là-dessus parce que
non.
J'ai...
Ouais. Non, mais sur l'assurance chômage quand même, je voudrais signaler que depuis que M. Macron est là, la France, le taux de remplacement moyen aujourd'hui est inférieur à la moyenne de l'OCDE.
Le ce taux de remplacement des deux...
C'est-à-dire ce qu'on touche quand on est au
chômage. On n'a pas baissé les indemnités du chômage.
On était à 69% en moyenne avant. Aujourd'hui, on est à 65%. C'est les données de l'OCDE, qui n'est pas un organisme communiste révolutionnaire avec le couteau entre les dents.
Mais donc, on n'a pas baissé les indemnités de chômage. En
fait. On a baissé la durée, on a baissé les conditions, on a procédé à plus de radiations. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Quand un pays n'est pas foutu d'assurer le plein emploi, ça veut dire qu'il faut assumer le fait qu'on a des chômeurs involontaires et donc ces personnes doivent être correctement indemnisé.
Alors, on a durci les conditions d'entrée et la durée d'indemnisation,
oui, c'est
mais
ça.
Pas les montants distribués.
Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a été étudiant, qui a travaillé pendant l'été, les deux ou trois étés avant de rentrer sur le marché de l'emploi, peut être sûr qu'en enchaînant les CDD, il n'aura droit à rien. C'est une réforme qui est scandaleuse, c'est une réforme qui est problématique.
Vous êtes contre, oui.
Clairement, on punit une fois de plus les jeunes.
Une remise à plat du mode de financement.
Je suis complètement opposé au fait qu'on retire la protection sociale des mains des partenaires sociaux pour la financer par l'impôt. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis un certain nombre d'années. C'est une tendance lourde.
Hein.
Si c'est la tendance
qui s'impose.
Et alors, c'est pas parce que quelque chose s'impose que c'est forcément
vous
bien.
Vous êtes si attaché que ça à tout le système paritaire?
Oui, complètement.
C'est vraiment
complètement.
La clé du...
On a retiré des mains du paritarisme la plupart des choses, ce qui fait qu'on leur laisse plus grand-chose. Et quand les partenaires sociaux arrivent à un accord sur le peu qui leur reste, on crie victoire, on dit c'est formidable. Moi, je suis pour redonner du grain à moudre au paritarisme. C'est l'esprit de nos institutions. Et en fiscalisant ça, l'État prend la main dessus. Et donc, on se retrouve avec une indemnisation du chômage et une indemnisation de la retraite.
Il y a un moment
de volonté politique.
Mais quand la situation n'est plus gérable, on a un actif pour 1,7 actif pour un inactif. Il y a bien un moment, il va falloir se poser des questions et arbitrer ce qui relève purement d'un système assurantiel ou auquel les cotisations de finances, de ce qui objectivement peut relever d'un système de solidarité qui est payé par l'impôt. C'est pas idéologique ça. Il s'agit pas. Et bon, effectivement,
désolé,
si vous passez.
Je suis désolé, cette idée. Je l'assume complètement.
Non,
je défendrai le paritarisme jusqu'au bout.
Je suis pas sûr que le paritarisme soit le Graal.
Je ne dis pas que c'est le Graal, mais je dis que c'est le moins mauvais des systèmes, comme dirait Churchill.
Le baromètre sur l'attractivité, il m'a impressionné ce baromètre sur l'attractivité. J'ai pas été le seul d'ailleurs à avoir été impressionné, puisque bon, on a l'habitude de regarder comment est-ce que la France est perçue par les investisseurs étrangers pour savoir s'ils viennent pas, si le pays est plutôt business friendly. Généralement, c'est business. Alors, c'est combien votre coût du travail, comment fonctionne votre droit du travail, quelles sont effectivement les conditions d'implantation si on veut du foncier,
quelles sont les infrastructures, la qualité de la main d'œuvre.
Voilà, absolument. Est-ce que vous êtes plutôt bien ou mal placé géographiquement sur la planisphère en Europe, tout ça? Et là, alors ça n'a pas été l'élément le plus au sommet de la pile dans les 12 critères que vous avez sondés, mais on se retrouve avec une dégringolade du critère concernant la sécurité. Ouais. Et la question qui était posée, c'est la sûreté aux personnes. Et je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu dans un baromètre éco d'attractivité ce sujet-là remonter en tête de gondole, et j'ai trouvé ça pas très rassurant.
Oui, alors il y a plusieurs choses. En fait, c'est vrai qu'il y a 12 critères, ils sont très positifs. On se rend compte qu'il y a une attractivité de la France comme jamais on a eu, puisque ça fait 4 années de suite que la France est le pays le plus attractif de l'Europe. Ça, vous pouvez le regarder partout. Donc ça, c'est génial pour nous. Mais c'est vrai que dans les critères, on a une perception vue par les Chinois et les Japonais sur la sécurité qui n'est pas très bonne.
Surtout les Asiatiques, oui.
Surtout les Asiatiques.
Juste devant les Nord-Américains.
Hein, une perception de nos conseillers du commerce basés à l'étranger. Donc, il faut faire attention avec les chiffres. Hein. Il ne faut pas leur faire n'importe quoi. Il y a une perception sur l'insécurité. C'est vrai que quand on montre des images à la télévision de grèves, de gens qui se font poignarder à la gare de Lyon, ben, les gens, ils ont peur. Voilà. Et il faut absolument changer cette image parce que ce n'est pas la vraie image de la France. Quand on voit toute cette campagne, Make It Iconic, tout ce que se donne, tous les moyens que donne l'État pour rendre la France attractive, et elle est attractive puisqu'on a dépassé le cadre des 100 millions de visiteurs de tourisme en France, donc on est un pays très attractif. Mais il y a ce problème de sécurité, c'est juste une mise en garde parce qu'on a des événements cette année en France extraordinaires, on va avoir les Jeux Olympiques, on va avoir plein d'événements, le Forum de la Francophonie qui arrive là au mois de mars, vraiment des événements qui vont encore mettre la France à l'honneur, il faut faire attention sur la sécurité. On en parle tout le temps.
Mais on l'avait jamais mis en avant dans un baromètre.
Sur l'attractivité, sur certaines de nos entreprises, elles hésitent à venir à cause de ça. Donc c'est juste un point de détail qui fait que...
Non, c'est pas un point de détail, parce que c'est pas simplement une impression que les images des émeutes, elles ont fait le tour du monde. Les images des réformes des retraites et les manifestations, ça a fait le tour du monde. Le fait d'apprendre que des profs étaient tués devant leur établissement, c'est pas passé inaperçu. Et effectivement, un événement comme le pont Biracaim ou encore la gare de Lyon tout récemment, ça fait le tour
c'est
du monde.
C'est catastrophique. C'est là où c'est on se rend compte que les médias font beaucoup de mal. Les médias racontent, mettent des choses à l'honneur, et c'est pas la réalité des choses.
Guillaume, ça vous inspire une réaction? Moi, j'avais jamais vu comme j'ai dit, jamais j'ai vu un baromètre qui s'adressait plus à Gérald Darmanin qu'à Bruno Le Maire.
Non, mais je pense que tout a été dit. C'est effectivement la façon dont les violences urbaines ont été traitées à l'international, la façon dont les Gilets jaunes, puis après la réforme de retraite, puis après Birakeim, puis après la gare de Lyon, ont été traitées à l'international.
Il y a le Stade de France aussi avec
le Stade de France avec, bien sûr,
les supporters raquettés là. Ça,
donc
ça a
tous
fait
ces éléments-là, c'est traité et ça crée. Des points, moi j'ai des amis à l'étranger qui m'ont dit comment ça se passe en France, est-ce que vous arrivez à sortir
Oui, il y a l'effet loupe de la caméra qui montre une poubelle qui crame, on a l'impression que la ville est en feu.
Alors que l'insécurité n'est pas en hausse.
Oui, enfin, ça fait des années. Je ne vais pas vous débattre là-dessus.
Il y a aussi le fait que globalement, au plan mondial, l'insécurité n'augmente pas. Et donc, il y a un phénomène qui est bien documenté en psychologie, c'est vraiment bien documenté, c'est que quand l'insécurité stagne, voire baisse, les gens deviennent de plus en plus intolérants.
Au moindre événement. Je n'ai aucune compétence sur les chiffres en matière de sécurité, donc je ne pourrais pas vous répondre de manière argumentée.
N'est pas en augmentation en France.
Bon, enfin,
c'est pas un fan de Darmanin qui vous dit ça.
Si vous voulez, le fait de voir apparaître en tête de gondole le thème de la sûreté des personnes dans un baromètre d'attractivité économique, j'avais jamais vu ça.
Oui, mais vous avez très bien expliqué.
Alors, et j'y vois pas que du ressenti, mais bon.
Forcément, si, c'est du ressenti qui est amplifié par la manière dont les médias traitent ces questions.
Il faut juste faire attention.
C'est certain.
Dieu sait si BFM Business n'est pas focus sur les sujets d'insécurité, parce que c'est pas vraiment la
sécurité. Vous voulez un bon point, Nicolas, on vous le donne.
Au moins, on a la réalité des choses avec BFM. On dit les choses. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
La semaine, en 4 jours, on a fait ce sondage avec Odoxa. 77% des Français sont emballés par l'idée de la semaine en 4 jours. Ça n'est pas du tout de la RTT façon 35 heures. C'est l'entreprise qui le peut réorganise son business avec ses salariés. Tu veux bosser que 4 jours et non pas 5, tu bosseras plus les 4 jours où tu es là et on va se mettre d'accord et s'organiser. Ça vous... Le débat monte, notamment depuis que Gabriel Attal a dit qu'il voulait l'expérimenter dans la fonction publique.
Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière, surtout? Derrière, c'est que... derrière, en fait, c'est que aujourd'hui, les Français... Mais l'ensemble, en fait, des salariés, l'ensemble des acteurs économiques, en fait, veulent pouvoir organiser leur temps de travail de façon individualisée et non plus de façon collective. Le système de horaire collectif, on fait 9h, midi, 14h, 17h pendant 5 jours de la semaine et ça fait nos 35 heures, la quasi-totalité des gens vous disent « je n'en veux pas ». Et en particulier les jeunes générations. Les jeunes générations, elles vous disent « moi, certains jours, je vais pouvoir bosser énormément, d'autres jours moins, je vais pouvoir bosser le soir, je vais pouvoir bosser, pas forcément être là le matin à 9h, mais travailler l'intégralité de l'après-midi et même le soir, éventuellement, etc. » Et c'est pour ça aussi que l'on a une explosion du travail indépendant et de la volonté de structurer autrement son travail, avec du télétravail, avec « je travaille une partie en entreprise, une partie chez moi », etc. Et cette
déconstruction du travail organisé, collectivisé, qui était la norme de l'entreprise industrielle et du monde industriel et du monde agricole aussi à une certaine époque, aujourd'hui évolue. Et comment est-ce que les entreprises peuvent faire face? Et moi, je le vois très largement à travers mes salariés. Mes salariés à la fois administratifs et encadrants, mais surtout mes intervenants. Le nombre de mes intervenants qui, en fait, ne veulent pas de temps plein, non pas juste parce qu'en fait, pour leur organisation personnelle aussi, c'est je vais organiser mon temps de travail différemment l'organisation avec 4 jours qui permet d'avoir 3 jours par semaine disponibles pour faire autre chose, c'est quelque chose qui, effectivement, devient publicité. Après, ça va être très compliqué pour les entreprises de s'organiser.
Ça peut être un progrès si ça se fait avec une entente globale, un accord d'entreprise, ça peut être un progrès.
Mais la difficulté, l'énorme difficulté...
Il y a un aspect un peu négatif dans la façon dont vous me le présentez.
Il y a des aspects négatifs et des aspects positifs. C'est-à-dire que ça va être très difficile pour l'entreprise de s'organiser. Et puis, surtout, ça ne va pas pouvoir toucher tout le monde.
Ah non, mais ça, c'est clair.
C'est un point qui est super important.
Oui.
Ça ne va pas pouvoir toucher tout le monde. Et donc, il va y avoir certaines professions qui vont pouvoir s'organiser.
Moi, je pourrais pas, par exemple, sinon je vous fais une émission d'1h12 du lundi au jeudi, je m'arrête le vendredi, mais ça a juste pas de sens.
Voilà.
Mais
c'est exactement bon. Ça. Et puis il y a certaines professions qui vont devoir qui continuent à travailler 6 jours sur des rythmes plus faibles, mais pendant 6 jours, d'autres qui travaillent pendant 4 jours, d'autres qui pourraient même travailler 3 jours fois 12 heures.
Moi, je suis pas si persuadé que ce soit
C'est de l'individualisation en fait.
Oui.
La volonté derrière et le ressort derrière, c'est individualiser ma relation au travail et non pas collectiviser.
Et pour les agriculteurs, c'est 365 jours par an.
Oui, c'est évidemment, ouais. Mais c'est indécent. Ouais. Mais vous n'aurez jamais un truc totalement égalitaire, c'est pas possible.
Ouais. C'est ça, l'égalité n'est pas l'égalitarisme.
Non, mais attention.
Alors, Dany Lang, allez-y.
Moi, j'aimerais bien prendre la parole parce que j'ai des points d'accord, des points de désaccord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est documenté, on a une aspiration à l'individualisation de temps de travail. Au demeurant, il n'y a pas que les agriculteurs qui travaillent dur. Moi, je suis fonctionnaire, je travaille. Allez, pendant les vacances, seulement 40 heures par semaine. Hein. Donc, pendant
vous travaillez 40 heures par semaine pendant les vacances d'été?
Bien sûr, parce qu'il y a des thèses à lire, à corriger, il y a des soutenances qui arrivent. Il y a le temps, on n'a plus toute la paperasse pour demander des sous, donc c'est là où on peut vraiment faire de la recherche et publier des articles. Moi, je travaille en temps normal, entre 50 et 80 heures par semaine et 40 heures pendant les vacances. Donc il faut, et je ne suis pas le seul, hein. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement vertueux dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est devenu la norme. Donc l'individualisation, ça nous mène sur cette pente. Donc il faut faire attention. Moi, j'ai toujours été favorable à la réduction du temps de travail. Elle se faisait autrefois par la négociation collective. Depuis un certain nombre de décennies, elle ne se fait plus par la négociation collective. Et les lois Robien et Aubry n'ont pas fait baisser le nombre d'heures travaillées dans l'entreprise. Elles ont permis une augmentation conséquente parce qu'on dépassait le seuil d'heures complémentaires.
Les lois Aubry, elles ont déclenché l'heure supplémentaire à la 36e.
Non, c'était annualisé, Nicolas.
Non,
c'était
par la annualisé. Suite. Par la suite.
Non, c'est pas vrai. Dans la loi Robien, dès 95, les 37h30 sont annualisées et la loi Aubryen est le décalque exact de la loi Robien à 35 heures.
Mais là, on ne parle pas d'une loi qui viendrait encadrer.
Donc, oui, mais
c'est pas le sujet. Et heureusement.
Il faut surtout pas de loi. Mais il faut arrêter le collectivisme.
Vous pensez qu'il faudrait une loi sur les 4 jours?
Je suis pour la réduction de temps de travail par la loi. Et ça passe aussi. Alors, c'est pas forcément pour les 4 jours, parce que c'est pas possible pour toutes les entreprises. Et notamment, si on réindustrialise, ça va pas être possible. Ceci étant dit, qu'on ait un cadre général, notamment avec une meilleure rémunération des congés de naissance, c'est aussi de la réduction de temps de travail.
Ça a été
avec
annoncé,
plus
ça.
De temps de formation, c'est de la réduction de temps de travail. Et moi, j'ai toujours été pour une limite à 32 heures annualisées.
Oh là,
je l'assume. Je sais que je ne suis pas en terrain conquis.
Ah non, là, vous êtes en terrain totalement hostile.
Mais je l'assume. Je l'ai écrit dans Le Monde. Je l'assume jusqu'au bout.
Ah, mais vous pouvez, il n'y a aucun problème.
Je l'assume jusqu'au bout parce que.
Je tiens absolument à ce que toute personne dans cette émission ait sa totale liberté de parole.
Il ne faut pas oublier. oublier non plus, mais... Nicolas, il ne faut pas non plus que les lois Robien et Aubry ont créé, d'après la Banque de France, 400 000 emplois.
Oui, non, mais alors là, bon, et, ok, et moi je veux bien rouvrir le débat.
Qui n'était pas favorable à ça.
Oui, mais vous savez très très bien pourquoi il y a eu des...
Par ailleurs,
on parlait tout à l'heure de courir.
Dernière chose, elles ont permis quand même d'amener pendant plusieurs années la France au top de la productivité horaire européenne. On n'y est plus.
Non, on n'y est plus du tout. Non.
Peut-être qu'il est temps de remettre un coup de fouet sur la productivité horaire.
Bon, ce chiffre de la Banque de France, c'est le moment où on fait plus de 3% de croissance et où on balance des milliards d'euros pour compenser les effets négatifs de la loi Aubry. Donc évidemment, on a eu un effet. Mais enfin, s'il n'y avait pas eu la croissance et les 12 milliards sortis en baisse de cotise, je peux vous assurer que la Banque de France n'aurait jamais conclu ça.
On est en désaccord.
Bon, on parlait tout à l'heure de courir avec
un. 4 minutes, hein, mais.
On parlait tout à l'heure de courir avec un sac à dos avec des plombs sur le dos. Bah là, on est vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, si ça avait été une bonne idée, je pense que des pays auraient copié la France. Or, il y a eu zéro pays qui ont copié la France.
Juste
donc, le modèle français.
Il y a des pays qui nous ont précédé.
Non, mais le modèle français de réduction du temps de travail, qui est une merveilleuse idée, généralisée à tout le monde de façon collective par les syndicats, organisés, machin, la collectivisation totale du travail a été une tellement bonne idée que personne ne l'a.
Sauf qu'on a été précédé de très loin par certains syndicats allemands et par les Pays-Bas qui travaillent beaucoup.
Mais pas pour tous les pays. C'est pas de la généralisation.
Les syndicats allemands ne sortent pas une loi qui va du jour au lendemain
et qui s'applique à tout le monde de façon uniforme. C'est ça le truc. En fait, la différence, c'est que aujourd'hui,
25 ans après,
on veut de l'individualisation. Les salariés veulent de l'individualisation. On en a marre des trucs collectifs. Bon. L'organisation collective du travail, c'est le truc du siècle dernier.
Non, mais il va falloir remettre des usines et organiser certaines choses collectives.
Autant tout le monde a copié une invention française qui s'appelait la TVA. Le monde entier l'a copié.
Oui, qui était une très mauvaise idée, d'ailleurs, au demeurant, ceci étant dit. Moi, je préfère...
Si on la supprime, là,
l'invention française, je préfère la carte à puce de M. Moreno. Les puces.
Ah oui, non,
mais sur vos cartes.
Mais le protocole...
Il y a beaucoup d'autres inventions françaises qui sont intéressantes.
Oui, c'est un Français qui a inventé l'iPhone et le processus iOS X qu'il fait tourner aussi. C'est un Français qui est à l'origine du protocole TCP/IP qui va donner naissance à
Internet. Voilà, en matière d'imagination.
C'est un prix Nobel qui a inventé le disque dur, il est français. Non, je suis d'accord que les esprits français et la matière grise, c'est un Français qui a inventé le ciment.
Oui, Louis Vicat en 1817. Il y a son nom sur la Tour Eiffel.
Ah oui.
Voilà, la matière grise, elle est chez nous.
Mais bien sûr que la matière grise, elle est chez nous. Non, il n'y aura pas de loi, alors.
Je sais bien.
Ah non, mais heureusement. Mais heureusement que vous êtes minoritaire.
Heureusement, parce que aujourd'hui, les heures supplémentaires sont payées comme des heures normales, quasiment.
Donc. Ah ben non, voilà. Vous êtes aux 35 heures, à la 36e, vous êtes payé en heures sup.
Oui, mais vous n'avez plus les 25 et les 50%
chez Ramon. Les 25 ne sont pas partout. Il y a eu des accords d'entreprise qui ont ramené les 25 à 10. Alors, vous dire combien sont à plus 25, combien sont à plus 10, je n'ai pas le chiffre en tête actualisé.
Voilà. Donc,
je pas
et vous après, le... on se plaint des pertes de pouvoir d'achat.
Mais je vous dis, perte de pouvoir d'achat, il faut modifier la façon de financer financer la protection sociale pour que le travail paie mieux. Vous n'allez pas indexer tous les salaires sur l'inflation, évidemment.
Oh, bah écoutez, en Belgique, ils ont
une structure très différente.
Ils ne sont pas plus malheureux.
Mais non, mais ils ont une structure.
D'ailleurs, ils n'ont plus d'inflation.
Bon, on a une minute 20.
Au niveau des conseils du commerce extérieur de la France, cette semaine, on a un gros débat sur l'agriculture européenne ou l'agriculture mondiale, avec Agnès Pannier-Runacher. Et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut sortir de cette crise. Donc, je vous ferai les comptes rendus de ce débat.
Ah oui, c'est alors.
Avec Thierry Blandinière, qui sera un débat ouvert à tous. Donc, ceux qui veulent se connecter, c'est ce jeudi.
Ce jeudi à quelle heure?
Entre midi et deux.
Entre midi et
vous allez proposer la taxe kilométrique, j'espère.
Eh bien, du coup, j'ai retenu votre idée. Nous allons proposer ça et ce sera un débat à suivre.
Et donc, l'idée de ce débat, c'est de se dire comment est-ce qu'on sort par le haut cette prise de conscience collective des problèmes que rencontre l'agriculture. Je vous avouerai que moi qui ne suis pas un expert de l'agriculture, j'ai pas encore totalement mûri l'histoire, mais bon.
Mais parce qu'il y a deux types de demandes contradictoires. Il y a celle du syndicat majoritaire qui est de pouvoir remettre des pesticides, etc. Et il y a celle de type confédération paysanne où les paysans en ont marre de vivre essentiellement des subventions, veulent pouvoir vivre de leur travail.
Ah oui, mais...
Et donc ils demandent qu'on remette, parce que c'est pas l'URSS, ça s'est fait dans la PAC, dans l'Union européenne, dans des pays capitalistes, qu'on remette des prix minimums sur leurs produits. Et moi, j'y suis très favorable.
On a mis en place un système qui, normalement, était pas mal dans la loi PAC, sauf qu'elle n'est pas respectée. Là.
Ah oui, tout à fait.
Bon, il y a trois façons de fixer le prix de la matière agricole. La troisième option, faisant appel à un tiers de confiance, généralement un commissaire aux comptes, fait qu'il y a une forme d'absence de transparence sur le chiffre final qui vous est présenté comme valide sans que
mais les paysans ont raison de dire qu'ils touchent de moins en moins. Et
les grandes surfaces, vous avez dit, on ne les entend plus.
On ne les entend pas. De toute façon, aller chercher un unique coupable dans ce genre de truc, c'est beaucoup plus complexe. Parce que j'ai rencontré toutes les parties et je peux vous assurer que pour réussir à y voir clair, quand vous n'êtes pas un industriel ni un grand distributeur, déjà, on s'arrache les cheveux pour piger Egalim. Il y a trois Egalim. Cette émission était totalement décousue, mais c'était pas désagréable. Voilà, je ne sais pas comment en régie ils ont pu suivre avec les synthés en fonction des différents sujets qu'on a pu traiter. Ça partait dans tous les sens. Sauf ici, l'Osvical, vous nous raconterez s'il y a eu des avancées sur ces débats autour de l'avenir de l'agriculture. Dany Lang et Guillaume Richard, on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.